Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Johanna Lemler qui nous parle de son podcast, notre Agada récit de femme. Bonsoir Johanna.
Bonsoir Sandrine.
Donc vous êtes Johanna Lemler et vous aspirez, comme tout le monde, à être libre. C'est par cette formule choc que les 7 épisodes de votre podcast commencent. Notre Agada récit de femme, c'est 7 épisodes pour l'instant, qui interrogent des invités sur leur expérience de femme juive qui aspire à plus de justice dans les relations femmes-hommes. Vous expliquez, notre Agada récit de femme, c'est le premier podcast dédié au récit de libération des femmes juives. Et évidemment, quand on entend Agada, on pense au récit de Pessar, la Pâque juive qui raconte la sortie d'Égypte du peuple juif qui était esclave. Et c'est précisément le point de départ de votre projet de penser la libération et la condition des femmes, ainsi que vous le présentez dans le premier podcast, puisque le premier podcast, vous êtes vous-même l'invité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de notre Agada récit de femme?
Oui, bien sûr. C'est une genèse qui part d'une démarche toute personnelle, hein, somme toute, qui part de mon expérience et de mes réflexions et de la dissonance que j'ai pu ressentir de ma place, dans ma place de femme juive, notamment dissonance qui est exacerbée, je trouve, au moment de Pessah, où il y a une mise en scène de la sortie d'Égypte. Donc, on doit revivre l'accession à la liberté comme point de départ en fait, du judaïsme, c'est-à-dire comme condition sine qua non de la réception de la Torah au Mont Sinaï. Le peuple doit être libre avant de pouvoir recevoir la loi. Et donc, il y a une dissonance forte quand on a cette mise en scène de la liberté où on doit revivre la liberté, avec effectivement une place assignée aux femmes de manière générale dans les sociétés en général et dans la société, dans le monde juif en particulier, qui est en tout cas questionnable. Est-ce que les femmes sont libres? Et si c'est comme ça qu'est né le podcast, avec cette question un peu choc, si les femmes ne sont pas libres, est-ce qu'elles sont juives? Donc c'est vraiment cette dissonance-là qui m'a fait commencer à réfléchir. Et j'ai eu envie de creuser, j'ai eu envie de chercher ce que les femmes avaient à dire de leurs conditions, parce qu'on les entend peu, ce qu'elles vivaient de leurs expériences de femmes juives et quel était leur rapport à la liberté.
Quand on pense aux conditions des femmes juives, c'est pas forcément le terme de liberté qui nous vient en premier lieu en tête. Liberté, évidemment, ça fait penser à liberté de la parole, libération de la parole, mais plutôt cette notion qui serait d'égalité ou de choses à mettre en avant quand on est une femme aujourd'hui et qu'on est juive. Et vous insistez pourtant sur ce terme de liberté. Donc c'est vraiment en référence à cette absence finalement de liberté qu'elles ont le soir du Seder de Pessah.
Alors oui et non. En fait, j'ai trouvé ça très intéressant, cet axe de la liberté. Je suis très contente que vous me posiez la question, Sandrine, parce que je me suis dit que ça positionnait, et je voulais positionner, le podcast et ma démarche au-delà des querelles de chapelle, d'égalité, de monde orthodoxe, de monde libéral. C'était pas ma question. Ma question, elle était comment, sur une question fondamentalement juive, les femmes se positionnent, en sachant que la liberté, c'est quand même un concept philosophique sur lequel... on a quantité de littérature, mais on sait bien que c'est somme toute quelque chose de très singulier, la façon dont on accède à la liberté, et sur des points qui sont très différents d'une femme à l'autre. Et donc c'est ça qui m'intéressait, c'est comment les femmes juives aujourd'hui peuvent se libérer, ou comment elles ont questionné ou résolu cette question de la liberté à leur niveau.
Alors, 7 podcasts pour l'instant. On peut citer les noms de vos invités, Lorraine Malka, Jessica Bonamy, Myriam Ackerman-Sommer, Anna Véronèse, Sophie Bigot-Goldblum, Anna Lévy-Honigman et Myriam Levin. Comment vous les choisissez, ces femmes?
Je les choisis en fonction de la proposition de discours qu'elles peuvent faire sur cette double identité, je dirais, cette intersection d'être femme et d'avoir un discours à porter aussi sur le fait d'être juive. Par exemple, je vous donne un exemple là, parce que je travaille à la diffusion d'un double épisode avec une femme que j'aime énormément, qui s'appelle Chantal Birman, qui est une sage-femme qui a été très active pour les femmes.
Dont le documentaire a été une réussite, et je crois qu'elle en prépare un autre.
Tout à fait, et elle a écrit aussi un livre, Au monde, ce qu'accoucher veut dire, que je recommande. Et Chantal Birman a un discours sur la liberté, elle a un discours sur le fait d'être sage-femme, et on sait que les sages-femmes ont une place très importante dans la sortie d'Égypte, et pourtant, elle n'est pas alariquement juive. Mais elle a un discours très important à faire entendre sur la libération.
Alors justement, hein, il y a une question surprenante que vous posez dès le premier podcast, et vous l'avez citée il y a un instant. Votre réflexion sur la nécessité de libérer les femmes juives passe par « Les femmes sont-elles juives ?» par cette interrogation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous y arrivez, comment vous y répondez, ou si c'est simplement, encore une fois, une formule choc lancée pour s'interroger ?
Alors, c'est jamais que des formules choc lancées un peu à la va-vite. C'est vraiment, cette question est le fruit d'une réflexion qui m'a choquée. C'est un peu ce que je viens d'expliquer sur la liberté comme condition sine qua non de recevoir la Torah, la loi sur le mont Sinaï. Et au-delà du fait qu'elle soit un peu provocatrice, la question est de dire, OK, si les femmes sont juives, comment le sont-elles ? Et avec quels attributs et avec quelle façon d'être juive. Et ça résonne beaucoup ce que vous dites avec le récit de Sophie Bigot-Goldblum, qui elle aussi dit que c'est un peu provoquant et que la majorité des femmes ne se retrouvent pas dans cette question. Elles se disent évidemment qu'on est juive. Néanmoins, elle pose la question de savoir si les femmes ne sont pas seulement juives en creux, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de mitzvot positive pour marquer, pour montrer leur judaïsme.
C'est très intéressant ce que vous dites, mais alors on en arrive à un terme qui est essentiel quand on s'intéresse à la libération des femmes, c'est le terme de féminisme. Et finalement, c'est un terme qui est aujourd'hui un peu, on va dire, presque polémique. Il est discuté, il est même parfois dépassé par certaines femmes modernes et simplement parce qu'il l'enferme dans un concept qui peut être une privation de liberté et l'inverse de votre démarche. Alors comment vous vous placez par rapport à ça ? Quelle est votre définition du féminisme ? Et je voudrais juste penser à la réflexion de Lévi-Strauss qui, lui, avait travaillé sur le concept de virilocentrisme et une philosophe comme Éliane Amado-Lévi-Valency avait dit que, justement, le féminisme était la dérive inverse calquée sur celle des hommes et que les femmes pouvaient aussi en souffrir. Qu'est-ce que vous en pensez ?
J'en pense que c'est un faux débat, en fait, de devoir se positionner comme étant féministe ou pas. Je crois que le féminisme défini comme une démarche d'égalité des droits entre les hommes et les femmes a fait beaucoup. C'est un mouvement qui a fait beaucoup pour l'avancée des droits des femmes.
Vous vous définissez comme féministe ?
Je dirais oui, mais j'entends j'entends ce que disent beaucoup de féministes. Il y a Antoinette Defoux qui a aussi lancé la maison d'édition des femmes, qui dit qu'elle ne veut pas se revendiquer d'aucun isme parce que c'est enfermant et parce que politiquement, ça fait trop penser à d'autres ismes qui peuvent être des dogmatismes, en fait, et qu'elle voudrait s'en libérer. En revanche, j'invite chacun et chacune à se poser la question de ce qui irrite quand on parle de féminisme. Qu'est-ce qui irrite les gens quand on parle de féminisme très fondamentalement ? Est-ce que c'est le fait que les femmes aient la parole ? Est-ce que c'est le fait qu'elles aient un discours sur elles-mêmes, sur les questions qui les concernent ? Ou est-ce que c'est déjà un niveau de questionnement qui est « D'accord, est-ce que en me revendiquant féminisme, je ne suis pas en train de m'enfermer dans un certain dogmatisme ?»
Alors, on arrive à une autre question qui est fondamentale, hein, que vous posez, hein, vous ne l'éludez pas. Est-ce que le judaïsme et finalement les autres religions en général sont vraiment compatibles avec cette idée de féminisme ?
Je fais le pari que oui, que ce n'est pas évident, mais que c'est compatible. Je crois qu'on a, comme dans le monde en général, bénéficié de récits essentiellement masculins et qu'on a tout à gagner à l'édification de nouveaux récits féminins pour rééquilibrer, tout simplement, faire cohabiter une pluralité des récits et une universalité des récits. Donc non, il n'y a pas d'incompatibilité.
Dans beaucoup de courants féministes aujourd'hui, la définition qui est la plus à même de donner à ce terme, ce serait de tendre vers une égalité entre l'homme et la femme. Intrinsèquement, est-ce que c'est possible dans le judaïsme? Parce qu'on sait bien, et notamment quand on est une femme pratiquante, alors pas seulement orthodoxe, mais simplement traditionnaliste, qu'il y a des prérogatives pour les hommes, des prérogatives pour les femmes, et que tendre à l'égalité, c'est pas possible. Je vous donnerai un exemple, le minyan. Les femmes ne comptent pas dans le minyan. Donc est-ce qu'une religion comme le judaïsme peut être égalitaire si les femmes ne comptent pas parmi les 10 hommes?
Bah, ça aussi, c'est une question. Je crois qu'il faut accepter, dans une religion qui revendique de donner une place centrale aux questions, d'être questionné par ça. Je crois qu'il faut entendre ce qu'on dit quand on dit, et là je reprends aussi quelque chose qu'avait dit Sophie Bigot-Goldblum, les femmes ne comptent pas. Ça me fait penser à la règle de grammaire qu'on utilise, que le masculin l'emporte sur le féminin. Qu'est-ce qu'on entend? Et je ne suis pas sûre que tous les petits-enfants à qui on enseigne cette phrase entendent que c'est seulement grammatical. Donc de la même manière, il faut entendre ce que ça veut dire et reprendre les sources. Qu'est-ce qui interdit à une femme de compter dans un minyan? Quel est le statut de Nashim dans la Torah? C'est-à-dire, est-ce qu'on est condamné à être une Nashim toute sa vie? Comment on peut, encore une fois, résoudre des contradictions de manière à ce que, aujourd'hui, il y ait des femmes qui se sentent concernées par leur religion, par les actions qu'elles peuvent avoir en étant femmes et juives.
On va revenir aux sources, hein. Vous l'avez dit il y a un instant, et il y a évidemment hein, quelque chose d'ontologique et d'essentiel dans Genèse 1:27. Dieu crée l'homme à son image, il le crée à la fois mâle et femelle, il les crée. Donc le premier humain qui est créé est à la fois masculin et féminin à l'image de Dieu. Pourquoi on a l'impression aujourd'hui que c'est totalement délaissé, cette citation, que les hommes essentiellement l'ont oublié?
Parce qu'on imagine Dieu comme étant un homme. Et je crois que on se trompe quand on fait ça. Et parce que, encore une fois, il y a ce qu'on appelle, ce que les féministes appellent aujourd'hui le male gaze. C'est-à-dire qu'au moment où on écrit la tradition orale, et ben on perd toute une oralité des femmes. Et c'est ben justement l'étude des hommes et la tradition orale des hommes qui est écrite et qui reste. Et donc, on a vite fait d'oublier ce que les femmes ont à dire de ça.
En vous écoutant, je pense à cette idée, évidemment, libérée. Moi, j'ai beaucoup aimé vos podcasts, j'ai aimé l'intelligence des questions soulevées. Et puis, ça correspond à une modernité qu'on recherche quand on est une femme et quand on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe dans le judaïsme. Mais qu'est-ce qu'en pensent les hommes? Est-ce qu'on peut faire avancer la liberté des femmes contre, en face des hommes? Et je vous dis ça parce que je pense, encore une fois, à une citation biblique, le récit de la création, le livre 2 de la Genèse, où on lit que l'Éternel conçoit à côté d'Adam un être semblable à lui. Et il crée Ève, Ezer, Kenegdo. Ces deux termes en hébreu ont suscité un grand nombre de traductions et on pourrait dire que c'est une aide face à lui. Déjà, comment vous l'analysez? Et finalement, est-ce qu'on peut penser la place des femmes sans penser à ces messieurs?
Non, je pense qu'on ne peut pas penser la place des femmes sans penser aux messieurs. Je tiens à dire aussi qu'il y a énormément d'hommes qui écoutent le podcast et je reçois quantité de messages et d'hommes et de femmes qui me remercient parce que il ne faut pas croire que seules les femmes sont enfermées dans un rôle. Les hommes aussi sont enfermés dans un rôle et certains dont ils ne veulent pas ou qui ne se sentent pas qui ne se sentent pas avoir la volonté d'être cantonné à quelque chose. Donc je crois que il faut penser la chose ensemble, hommes et femmes, et accepter, comme Carla Landi le dit dans Crachons sur Hegel, une certaine prise de risque commune devant la tâche de repenser les choses. Après, effectivement, il y a cette idée que la femme est créée comme une aide contre l'homme, à son encontre. Ça me fait penser beaucoup à cette question du care féminin. Les femmes sont assignées depuis très longtemps à des rôles de prendre soin. Prendre soin des hommes, prendre soin des enfants, prendre soin des personnes âgées, prendre soin des malades. Et on peut toujours se demander, c'est de l'œuf et de la poule, qu'est-ce qui est venu en avant ? Sociologiquement, c'est vrai que les femmes ont été assignées à ça. Je ne crois pas qu'il y ait un ADN du care de la femme. Et donc, on peut voir ce passage aussi comme, oui, les hommes et les femmes sont créés, les humains sont créés aussi pour s'aider les uns les autres. Ça me paraît être une évidence.
Est-ce que les pires ennemis, finalement, pour la libération des femmes, ce ne sont pas certaines femmes aussi qui sont, notamment dans le judaïsme, totalement réfractaires à toute évolution ? Est-ce que certaines femmes ne sont pas celles qui sont les plus difficiles à convaincre pour parfois revenir au texte et montrer qu'on peut avoir plus de place dans le rite ?
On rencontre une forte résistance. Alors, qui des hommes ou qui des femmes sont les plus résistants ? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on ne peut pas sous-estimer le fait qu'il y ait une résistance de la part de femmes. On le comprend parce qu'il y a dans le monde juif et dans le monde juif orthodoxe beaucoup une apologie de la femme comme étant le rôle beau par excellence. La femme est, on ne sait pas par quelle magie, la femme est directement connectée à Dieu. On ne sait pas par quelle magie, la femme connaît déjà toute l'étude et donc n'a pas besoin d'étudier. Et donc, je reprends ce que Myriam Ackermann Sommer disait dans l'épisode. Évidemment qu'il y a une forme d'apologie, sinon ça ne tiendrait pas. Donc on dit aux femmes que la seule manière de se réaliser est... en respectant la tzniout, par exemple, en faisant les salades de Shabbat, mais pas que. C'est ce que dit Myriam Ackermann Sommer. Donc, il y a un certain confort à se glisser dans les rôles qui sont assignés. Et je crois qu'il ne faut pas le nier. Et que ça pose question à beaucoup de femmes de se demander si il faut qu'elles changent absolument tout ce qui leur a été enseigné jusqu'à maintenant. Il y a cette idée qu'on est une vraie femme en étant la femme juive par excellence. Donc il y a cette résistance. Et pourquoi pas ? L'idée n'est pas de dire aux femmes comment elles doivent se comporter. Si elles veulent se comporter de cette manière-là, qu'elles le fassent. L'idée est de faire coexister, cohabiter d'autres manières de vivre sans pour autant s'amputer d'une de nos identités. C'est pas parce que je suis une femme qui ne respecte pas la tzniout que je ne suis pas une femme juive.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Johanna Lemler qui nous parle de son podcast Notre Agada, récit de femme. Qu'est-ce que vous pensez de la théorie du genre ? Alors, je rappelle ce que c'est, c'est la thèse qui explique la construction de l'identité sexuelle à partir de facteurs non biologiques et elle distingue le sexe qui est déterminé par la biologie du genre qui est le résultat de l'influence sociale et culturelle. Alors, ça a été inventé dans les années 70 par Judith Butler. Comment le judaïsme peut-il se placer par rapport à cette théorie ? Est-ce que là, encore une fois, il n'est pas totalement en marge ?
Je vais m'appuyer sur Simone de Beauvoir ici. C'est-à-dire que oui, la femme enfante, oui, la femme est physiologiquement différente des hommes. Non, cela ne justifie en rien la domination et l'oppression dont elle est l'objet aujourd'hui. Et donc ça, il faut que aussi dans le monde juif, on puisse l'entendre. Il y a toujours cette idée, si on remplace, par exemple, si on remplace femme par juif, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que les juifs aient des traditions particulières, aient une façon de vivre particulière, est-ce que ça justifie l'oppression ou l'antisémitisme dont ils sont les victimes ? Si on remplace maintenant femme par noir, est-ce que le fait que les noirs aient une peau noire justifie l'oppression dont ils sont l'objet ? Donc c'est pas parce qu'il y a une potentielle différence, quelle qu'elle soit, que tout à coup on peut justifier d'une domination quelconque.
Est-ce que vous avez bon espoir que les choses changent dans les mentalités ?
Oui, j'ai bon espoir, sinon je ne ferai pas ce que je fais. J'ai bon espoir que les choses changent. J'ai bon espoir parce que elles sont déjà en fait en train de changer dans le monde juif et ailleurs. Il y a des femmes orthodoxes qui sont ordonnées rabbins. Et ça, c'est une nouveauté en France. Et on peut aussi se tourner vers d'autres pays où les choses ont déjà bien avancé.
Alors justement, vous parlez de la France. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'orthodoxisation aujourd'hui des instances du judaïsme français ? Est-ce que ce n'est pas plus difficile aujourd'hui de libérer la parole des femmes juives françaises qu'en Israël, aux États-Unis, en Angleterre ?
Alors, j'ai pas testé, hein. J'ai fait que en France. Je peux pas vous répondre sur la difficulté. J'ai le sentiment, quand on regarde quand même ailleurs, et je vais parler quand même de ce qui m'a frappé moi il y a quelques mois. Quand on regarde par exemple vers les États-Unis, la Haggadah des femmes de Nimrod et Bronner est écrite dans les années 70 aux États-Unis. Donc, c'est certain que ça fait plus d'une cinquantaine d'années, qu'il y a des choses qui se passent aux États-Unis et en Israël concernant une forme de libération de la parole, une forme de prise en compte de ce que les femmes ont à dire sur ce qui les concerne. Est-ce que c'est plus difficile ? Je pense que effectivement, la France ayant une communauté juive assez importante, n'est pas très forcément ouverte sur le reste du monde et peut vivre en vase clos en fait assez bien. Mais je crois qu'on gagnerait à s'inspirer de ce qui se passe ailleurs.
En général, les religions, hein, quelles qu'elles soient, sont considérées comme aliénantes pour les femmes. Hein. Je schématise, mais c'est un peu ça. Et quand on vous écoute, qu'on écoute vos podcasts et les femmes qui y participent, on a l'impression que c'est l'inverse, que finalement le judaïsme peut être un instrument de la libération des femmes et pas seulement de la parole. Est-ce que c'est pas aussi ça que vous avez voulu mettre en avant ?
Complètement. Je vais revenir au Seder de Pessah. La Haggadah, qui veut dire le récit, et tout le cédère qu'on met en place est une formidable matrice d'émancipation. Je crois qu'on a vraiment à apprendre de comment la mise en place d'une Haggadah permet de dire la liberté, permet en même temps une transmission des traditions et des traditions de questionnement, qui sont d'une grande modernité aujourd'hui. Et ça, j'ai la conviction qu'on peut utiliser des outils. Alors Audrey Lorde, c'est certainement pas d'accord, c'est une féministe noire américaine, lesbienne, qui dit on peut pas détruire la maison du maître avec les outils du maître. Et moi, je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec elle, c'est-à-dire qu'on a des outils dans le judaïsme qui peuvent nous aider à penser à la fois nos traditions et à la fois la modernité. Le judaïsme contient des éléments de sa propre réinvention.
En attendant, est-ce que vous ne vous heurtez pas à la manière dont les choses se passent encore aujourd'hui dans quasiment toutes les synagogues parisiennes ? Est-ce que d'aller à un office, d'assister à une célébration religieuse, n'entre pas en contradiction avec tout ce que vous tentez de faire avancer dans les mentalités des gens ?
Alors oui, je reste heurtée par le fait que les femmes aient souvent un lieu tout petit dans lequel être. Je suis aussi heurtée par un certain nombre de discours qu'on peut entendre sur la femme, qui sont prononcés par des hommes, comme si vraiment on devait juste entendre et écouter ce qu'on a à nous dire sur nous. Donc ça me heurte, effectivement.
Je peux prolonger ma question parce que je vous pose cette question parce qu'on est toutes des femmes et que parfois on va dans des synagogues où la méritza, la séparation est de plus en plus opaque, où on voit rien de ce qui se passe, où il y a des discours qui sont souvent un peu limites et finalement la seule chose qu'on fait c'est on se tait parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et on a envie parfois de savoir comment réagir et peut-être que vous pourriez nous donner des clés aussi pour faire avancer les choses.
Alors, je vais vous parler juste de mon expérience personnelle parce que je parle de ma place. Je ne sais pas parler d'ailleurs, mais je suis tout à fait d'accord. Et je parlais d'être heurtée et je l'ai été souvent par le manque d'exigence aussi intellectuelle des discours qu'on entend. Et souvent, notre première réaction qui est bien humaine et effectivement de contenir une certaine forme de colère, de se dire qu'on n'a pas répondu de la manière dont on aurait aimé répondre, de se dire « oui, bah, j'aurais dû dire ça, parce que ça me paraît pas juste intellectuellement. » Mais il faut se poser la question, et là c'est un peu l'entrepreneur qui parle, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question en termes d'impact. C'est-à-dire, quel est l'impact de notre colère à ce moment-là? Et comment la transformer en moteur, quelque chose de moteur. C'est-à-dire que vous pouvez vous énerver tout ce que vous voulez, assise derrière la méritza parce que vous ne voyez rien. Quel impact ça a? Je pense à peu près zéro, si ce n'est sur votre santé mentale. Et que c'est une des choses qui a guidé le fait de faire de mon podcast, c'est de me dire, eh bien, je pense qu'on est plusieurs à se sentir dans cette position. À mon échelle, à mon niveau, je vais essayer de toucher les femmes qui ressentent la même chose que moi. Et je crois qu'en créant du sens, en étant active dans cette recherche de création de sens, on a beaucoup plus d'impact. C'est libérateur et c'est très porteur de joie que de faire ça.
Cette podcast, on l'a dit, quel regard vous jetez sur... ces entretiens avec ces femmes. Est-ce que vous êtes satisfaite? Vous avez l'impression que les choses commencent à bouger? Est-ce qu'on en parle suffisamment dans la communauté juive? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je vais vous dire, au départ, cette idée de podcast, c'était un peu pour mes copines et moi. Donc, je ne pensais pas du tout qu'il aurait la portée qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on l'a lancé, je l'ai lancé il y a seulement quelques mois, en avril, et j'ai des milliers d'écoutes. J'ai un regard très ému pour toutes les femmes qui sont venues me parler et qui m'ont fait confiance. Et très admiratif. Il y a des choses qui se disent dans les épisodes, qui se passent dans les épisodes, que je trouve justement intellectuellement très exigeant et très intéressant. Et ça nourrit ma curiosité, ça nourrit ma démarche, et je crois que ça nourrit la démarche de beaucoup d'autres. Donc, je vais continuer à suivre ce chemin-là. J'ai déjà 6 autres épisodes qui sont prêts, qui vont être diffusés dans les prochains temps. J'ai 1000 idées de projets qui vont rassembler des femmes. Qui sont des femmes brillantes de ma génération, de la génération précédente, de la génération à venir. Et j'en suis, je parlais de joie, j'en suis absolument ravie. Et ça, vraiment, ça m'apporte énormément de simra.
Alors j'espère que notre discussion a donné l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de découvrir le podcast. Comment on fait pour l'écouter?
Alors, notre Haggadah Récit de femmes est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts. Vous pouvez également vous abonner à une newsletter pour être notifié des épisodes qui sortent. C'est aussi un canal de diffusion sur WhatsApp et un compte Instagram.
Alors, il y a une question classique, mais néanmoins difficile. Pour conclure cette émission, si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom d'écouter le podcast, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Je dirais qu'on a une mitzvah de parler de la sortie d'Égypte. Et que c'est aussi comme ça que j'ai pensé ce podcast. Qu'en tant que juif, on a cette mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Et finalement, d'entendre les femmes, et ce que les femmes ont à dire de leur propre sortie d'Égypte, de leur propre libération, avec une exigence aussi bien sur des questions traditionnelles que sur des questions modernes. C'est un élément fondamental aujourd'hui pour mieux comprendre les enjeux de ce à quoi nous sommes toutes et tous confrontés. J'ajoute que c'est vrai que c'est un axe juif, mais en réalité ça parle à tout le monde et des rapports de domination qui sont qui vont bien au-delà du monde juif et qu'on rencontre dans d'autres religions.
Eh bien, merci infiniment, merci. Johanna Lemler. On rappelle que votre actualité, c'est donc ce podcast dédié au récit de libération des femmes juives, notre Haggadah, récit de femmes, évidemment. Hein. Connectez-vous au plus vite, allez partout, vous pouvez l'écouter, parce que ce sont des paroles qui font du bien, aussi bien les hommes que les femmes. Les juifs, les non-juifs, les jeunes, les moins jeunes doivent écouter et que même si on n'est pas forcément d'accord, eh bien au moins ce sont des points de réflexion et d'interrogation à approfondir. Et c'est une réflexion essentielle aujourd'hui, en France notamment, de savoir quelle est la place des femmes dans le judaïsme. Et merci infiniment d'avoir ouvert la brèche et d'avoir créé ce podcast qui, je pense, n'est qu'un début. Et on attend évidemment l'univers des possibles de ce qui pourrait être mis en place par la suite. Bonsoir et à bientôt.
Merci Sandrine, bonsoir.